Ce kidnapping parfaitement factice dont la vidéo a envahi la toile et qui met en scène un journaliste de Libération kidnappé par des djihadistes cadre parfaitement avec cette autre affaire rapportée par les médias mainstream il y a 2 jours, comme quoi 2 voleurs auraient été mutilés dans un village par les mêmes djihadistes qui appliquent la charia dans le nord du Mali depuis que les populations et l'État malien ont décidé de les faire réintégrer au sein de la société. Les 2 affaires se passent à Gao, où l'armée malienne, en dépit du coup d'État, des violences croissantes des groupes soutenus, financés et armés par Barkhane, des bombardements, des attaques aux drones et même du déploiement d'une partie des forces de l'OTAN, continue à tenir bon et ne se désengage pas puisque Gao, Kidal et le nord du Mali appartiennent à l'État malien et que près de 10 ans d'occupation étrangère. Et même les tentatives destinées à réactiver le perfide accord d'Alger ces derniers temps ne réussiront pas à faire amputer le Mali de ses provinces stratégiques, d'où cette double mise en scène. Un journaliste à la peau noire se faisant appeler Olivier Dubois, qui vient d'être kidnappé dans des conditions obscures et qui appelle la France à l'aide. Quelle pourrait être la suite? L'État français et l'armée en charge de protéger les citoyens français ne tarderaient pas à en faire un prétexte à décréter un nouveau déploiement dans le nord du Mali et à envoûter l'État et l'armée malienne pour que ce fameux processus de régionalisation dont parlent constamment les médias mainstream se fasse dans des conditions optimales. Surtout que depuis le processus de réconciliation et le retour des fameux djihadistes au rang desquels figurent le nombre de populations maliennes ayant pris l'arme contre l'occupation parce qu'il n'y avait pas de meilleure alternative, les choses continuent à aller dans le bon sens et les villages entiers à reconnaître un début d'accalmie. Tout ceci est franchement inquiétant pour une force d'occupation qui, au train où vont les événements, va perdre bientôt tout motif de présence au Sahel. Reste à savoir si cette mise en scène, placée sous la couleur terrifiante d'une affaire de mutilation, sur base de quoi Barkhane laisse entendre que les musulmans maliens sont tous d'une manière ou d'autre complices des djihadistes qui tuent, mutilent et kidnappent, suffira à dévoyer Gao et à en ouvrir les portes à la force d'occupation. En Centrafrique, la France remue ciel et terre afin de reprendre son emprise sur ce pays stratégique et ce, via des accusations portées contre le gouvernement, l'armée, mais surtout contre la Russie. Il y a quelques jours, les médias mainstream tentaient de faire croire qu'il y a une mésentente et course au pouvoir entre la Chine et la Russie en RCA. Cette fois-ci, c'est au tour de la soi-disant enquête RFI sur les exactions des Russes en RCA. Tout d'abord, cette question vient à l'esprit. Qui est RFI pour mener une enquête dans un pays souverain et indépendant? Le pays ne dispose-t-il pas lui-même d'institutions pour investiguer sur ce qui se passe dans le pays? Bien sûr que si. Et c'est pour cela d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazaghi, se dit surpris par la méthode utilisée et met en cause le bien fondé de ces accusations. Nous nous étonnons de cette convergence et nous pensons qu'il s'agit d'actions organisées contre notre pays avec un objectif très clair, c'est tout simplement de faire en sorte d'arrêter la progression de nos FACA et de nos alliés dans la libération de notre pays. On ne peut pas essayer de nous amener à pas forcer vers l'accusation de nos forces et de nos alliés sans qu'une vraie enquête n'ait été faite, a déclaré Ange-Maxime Kazaghi. Dans un communiqué, l'ambassade de Russie à Bangui a elle aussi réagi à l'enquête publiée par RFI en dénonçant de fausses nouvelles. Nous constatons avec regret qu'en publiant cet article, un média renommé s'aligne avec des fabricants de fausses nouvelles qui servent les intérêts des malfaiteurs, qui complotent pour renverser le gouvernement légitime, peut-on notamment lire dans ce texte. En effet, depuis plusieurs mois, le renforcement des liens Bangui-Moscou gêne. Et la force d'occupation le fait clairement comprendre. La mission de coopération de défense française, initialement composée de 10 officiers et sous-officiers, ainsi était réduite au strict minimum. Et ceci ne plaît absolument pas à la force d'occupation. Le président français a appelé la semaine dernière à préparer un New Deal pour aider les pays africains à surmonter le ralentissement très fort de leur économie depuis la crise du Covid-19 avant un sommet financier prévu le 18 mai à Paris. Luc Michel, géopoliticien, nous donne plus de détails sur ce New Deal d'Emmanuel Macron.
Nous avions donc déjà évoqué le sujet du New Deal de Macron pour l'Afrique et expliqué combien c'était une nouvelle arnaque néocoloniale vis-à-vis des Africains. Mais la situation est beaucoup plus grave. Tout d'abord, il y a un immense rejet des ambassadeurs africains à Paris qui n'ont pas été de sources diplomatiques consultés pour le choix des pays qui vont participer et qui a été fait uniquement avec le vieux complice des Occidentaux, qui est le président congolais qui préside l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Les ambassadeurs sont furieux que ce soit Macron qui ait déterminé qu'il fallait inviter ou pas, et donc cela va avoir des conséquences diplomatiques. Mais il y a pire encore, il y a un véritable complot qui se prépare de Macron avec l'aide de l'administration américaine contre les Africains. Pour comprendre, il faut revenir au premier jour du soi-disant printemps africain, en début du 4 au 8 août 2014. À ce moment-là, les Américains, Obama et Kerry, organisent à Washington un sommet USA-Africa de leaders et en parallèle, à 800 mètres de là, alors que Obama est en train d'embrasser les dirigeants africains avec hypocrisie, il y a un sommet alternatif de la ND, National Endowment for Democracy. C'est une des principales vitrines légales de la CIA créée par Ronald Reagan dans les années 80. Et l'AND organise un sommet alternatif consacré au mouvement de jeunes, à la société civile. Le co-organisateur, c'est Georges Soros. On voit des milliers d'activistes syndicalistes, politiques, patrons de presse, etc., se précipiter dans cette réunion et faire allégeance aux États-Unis. J'ai publié à l'époque une vidéo des intégrales des 8 heures de cette réunion. C'est évidemment très significatif. Macron s'apprête à remettre le couvert, en effet, après le sommet donc France-Afrique qui va se tenir lieu ce mois-ci. Il va organiser début août à Paris un nouveau sommet France-Afrique, mais cette fois-ci consacré à ce qu'il appelle la société civile et les ONG. Une fois de plus, le choix des ONG va être fait par le Quai d'Orsay sans consulter les Africains et va être fait avec les réseaux de Georges Soros qui sont implantés en France et ont d'excellents liens avec le Quai d'Orsay. Il faut savoir que l'adjoint de Georges Soros en France, l'avocat William Bourdon, préside des ONG comme Transparency International, Sherpa, Anticor, etc., qui, sous prétexte de lutte contre la corruption, déstabilise déjà un certain nombre de pays africains. Tout cela est expliqué déjà en avril 2020 dans une note du Quai d'Orsay qui s'appelle « L'effet pangolin et la déstabilisation de l'Afrique ». Au tout début de l'épidémie du Covid, il pense que la pandémie du Covid va surtout fragiliser les sociétés africaines. L'avenir expliquera qu'en fait, ce sont les sociétés occidentales qui vont subir de plein fouet la pandémie du Covid et pas les Africains. Mais l'idée, c'est que la pandémie du Covid va offrir des opportunités de déstabilisation de ce qu'ils appellent les vieux régimes africains. Et le Quai d'Orsay entend donc donner la parole et une aide organisationnelle, diplomatique et financière aux organisations dites de la société civile, c'est-à-dire des ONG, des groupes de Soros, des groupes de jeunes comme Soros, comme Il y en a marre, le Ballet citoyen, etc. Et derrière tout cela, évidemment, il y a la volonté de rééditer en 2021 ce qu'a été ce sommet alternatif de la ND en 2014. C'est très grave parce que le soi-disant printemps africain, au départ, devait consacrer 9 pays d'Afrique noire après les pays d'Afrique du Nord déstabilisés par le printemps arabe de 2011. Qu'est-ce que c'est le soi-disant printemps africain? C'est la version pour l'Afrique noire, donc de ce printemps arabe. Dans la pratique, une vingtaine d'États vont être touchés. Des révolutions de couleur vont être tentées au Gabon ou au Burundi, par exemple. Une première fois en Guinée équatoriale. Depuis, sans arrêt, on déstabilise le Tchad, on déstabilise le Cameroun, on déstabilise la Guinée équatoriale. On a, à plusieurs reprises, avant la prise du pouvoir de Tshisekedi, déstabilisé la RDC de Kabila. Et l'une des succès de ce soi-disant printemps africain, il a été acquis par Trump en 2019, c'est le renversement du régime de Omar el-Béchir et l'installation d'un gouvernement pro-américain, présidé par Hamdallah Hamdok, qui est un affilié de l'Atlantic Council, le think-tank américain tout-puissant en Afrique. Ici, il s'agit des effets de ce qu'on appelle dans les milieux diplomatiques la romance diplomatique de Macron avec Kamala Harris, c'est-à-dire que Macron va avoir l'initiative dans les pays d'Afrique francophone avec l'aide des Américains du State Department, évidemment, qui se frottent les mains derrière tout ça. On se rappelle une dernière chose, c'est que au tout début du macronisme, qui était un scénario politique imposé en France par les milieux pro-américains de Le Drian, l'ancien monsieur Afrique de François Hollande, devenu le monsieur Afrique de Macron, l'héritier de Jacques Rocard, eh bien, Macron était très proche à l'époque des réseaux de Georges Soros. Son mouvement En Marche, d'ailleurs, est purement et simplement la traduction du principal mouvement de Soros aux États-Unis, qui s'appelle On Move. Il faut donc que les Africains soient avertis et se préparent à cet assaut frontal pour déstabiliser de nombreux pays africains.
Depuis les premiers cas du nouveau coronavirus signalés en mars 2020 au Burundi jusqu'au 3 mai 2021, près de 300 000 personnes ont déjà effectué des tests sur ce virus, dont 4 052 cas diagnostic positif, a déclaré mardi à Bujumbura Dr Jean-Claude Bizimana, directeur du Centre des opérations d'urgence de santé publique au sein du ministère burundais de la santé publique et de la lutte contre le sida. Le médecin Bizimana, qui intervient en qualité de représentant du ministère burundais de la santé publique et de la lutte contre le sida au cours des travaux d'un atelier d'échange organisé dans le cadre du projet intitulé COVID-19, réponse rapide dans la région des pays des Grands Lacs, a précisé que plus de 90% des personnes diagnostiquées positives ont été déjà guéries. D'autres personnes, a-t-il ajouté, sont en cours de traitement avec une bonne évolution. Cependant, a-t-il reconnu, cette pandémie mondiale a déjà endeuillé quelques familles au Burundi sans manquer de provoquer des effets pervers sur l'économie du pays. Le gouvernement burundais souhaite que toutes les forces vives de la nation travaillent en synergie dans la riposte contre cette pandémie car ce n'est pas le seul ministère en charge de la santé publique qui est appelé à combattre la maladie de COVID-19, a-t-il insisté. Visite fructueuse au Kenya pour Samia Suluhu Hassan, arrivée ce mardi pour une visite de 2 jours. La présidente tanzanienne a signé un accord pour le transport de gaz liquéfié depuis le port kenyan de Mombasa jusqu'à Dar es Salaam et convenu de la levée de barrières douanières entre les deux pays. Autrefois proche allié du Kenya au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, la Tanzanie s'est éloignée ces dernières années de ce bloc régional sous la présidence de John Magufuli, une période où la rivalité économique grandissait et où les accusations de pratiques commerciales déloyales se multipliaient entre les deux pays. Devenue début avril la première présidente de son pays, après le décès soudain de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan a été reçue par deux ministres à son arrivée à Nairobi, avant de rencontrer le président kényan Uhuru Kenyatta. Les deux dirigeants ont annoncé la signature d'un accord pour le transfert de gaz et de pétrole liquéfié depuis le port kényan de Mombasa jusqu'à la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam. Les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal ont réussi des performances lors de la campagne 2020-2021, malgré le contexte de pandémie de COVID-19, s'est félicité mardi à Dakar le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta, Aboubakri Sow. La COVID-19 a certes impacté sur la campagne 2020-2021, mais on a pu faire des performances dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est presque plus de 105 000 hectares qui ont été emblavés dans la vallée de fleuve en 2020-2021. Malgré la pandémie, les activités agricoles sont en train de se dérouler normalement, a-t-il soutenu. Monsieur Sow intervenait en marge de la cérémonie de signature d'accord de financement entre le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Ott et la représentante résidente de l'Agence coréenne de coopération internationale, Nam Soon Lee. En 2019, les gouvernements tanzaniens et zambiens ont convenu de financer la récapitalisation de l'autorité des chemins de fer Tanzanie-Zambie en difficulté. Alors que le processus est toujours en cours d'élaboration, le gestionnaire ferroviaire donne le ton de ses nouvelles ambitions. La Tazara prévoit de générer 45,71 millions de dollars de recettes au cours de l'exercice fiscal 2021-2022. C'est en tout cas l'objectif à elle assigné par le conseil d'administration qui a tenu sa 116e réunion le mercredi 28 avril. Dans les détails, Tazara devrait engranger 36,3 millions de dollars de recettes pour les services de frais et de passagers, tandis que 9,67 millions de dollars sont attendus d'autres revenus auxiliaires non liés au trafic. Pour atteindre l'objectif, le gestionnaire ferroviaire doit transporter au moins 450 000 tonnes de frais et 3 400 000 passagers au cours de l'exercice 2021-2022. Un véritable défi quand on sait que l'exercice précédent a été durement éprouvé par la crise sanitaire qui a restreint la mobilité des biens et des personnes.